vamos a presentar a nuestro siguiente.
Et nous allons présenter notre prochain.
Espero pronunciarlo bien. Jean-Yves Martin.
Jean-Yves Martin.
Jean-Yves Martin. Bueno, su, él es,
donc lui, il est professeur agrégé et docteur en géographie. Il a écrit plusieurs articles sur l'œuvre de Lefebvre et actuellement, il est à la retraite. Donc, sa communication a comme titre faire droit à Lefebvre du Brésil rural au périurbain nantais. Je lui passe la parole.
Merci. Alors effectivement, d'abord merci au comité d'organisation de m'avoir invité à participer à ce colloque avec un sujet de communication un peu transversal, un peu hybride et disparate. Mais je vais malgré tout essayer de tenir aussi bien que Lucia les délais de... Et l'épreuve n'est pas facile parce qu'il faut restreindre son discours à l'essentiel. Et puis j'ai donc fait un choix, c'est je vais projeter à l'écran un certain nombre de choses et je m'en contenterai d'en faire le commentaire, c'est-à-dire que je laisse largement de côté le texte de ma communication. Tant pis, il y a des choses qui vont partir, mais ça ne fait rien. Je crois que c'est peut-être une solution, j'essaye en tout cas d'y arriver comme ça. Alors la première chose dont nous allons... Il y a plusieurs préalables. Le premier préalable, c'est... Là, c'est le plan. On passe tout de suite directement. Voilà. Le premier préalable, c'est un exercice simple de construction de la généalogie du corpus spatial lefebvrien. Alors, dans les 70 ouvrages de Lefebvre, j'ai retenu ceux qui avaient attiré plus ou moins mon attention pendant toutes mes lectures depuis une trentaine d'années environ. Et le fait est qu'il y a une observation à faire qui est la suivante. C'est que la production éditoriale de Lefebvre sur l'espace se restreint. Là, je parle sous le contrôle des biographes de Lefebvre, se concentre particulièrement dans une période qui va de 1968 à 1974. Mais, en fait, si on regarde rétrospectivement, les racines sont néanmoins avant. Et ce qui m'intéresse... Alors, simplement au passage, je souligne que, par exemple, le petit livre « Le marxisme » de 1948... J'espère que je parle pas trop vite. Si, un peu. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui... toujours le best-seller de la collection encyclopédique Que sais-je ? Je crois que c'est 400 000 exemplaires, 23 éditions. Alors qu'on le veuille ou non, Lefebvre reste dans les esprits, enfin dans les curiosités en tout cas. Alors ce que je voulais aussi ajouter comme commentaire de ce premier préalable, c'est que certes, pour moi, je crois... que l'ouvrage le plus abouti, c'est la production de l'espace. Ce n'est pas le plus facile non plus. Hier, on a bien vu que ça prêtait à quelques interprétations possibles. Cela dit, on a presque le sentiment que Lefebvre lui-même avait l'idée que, à partir de là, la production de l'espace, il en avait quasiment fini avec l'espace. Ce n'est pas exact. Parce qu'en réalité, l'espace revient plus tard, par bride, dans d'autres ouvrages. Et je m'appuierai par exemple tout à l'heure sur Le temps des méprises en 1975, tout de suite on va y passer, et où effectivement il revient de façon plus synthétique sur et qui montre que d'une certaine manière il est toujours resté fidèle à un corpus spatial que par la suite il approfondit au détour d'un chapitre, au détour d'une phrase, notamment par exemple dans De l'État également. Alors, ce qui fait que, finalement, on n'en a jamais vraiment fini avec Lefebvre. C'est-à-dire qu'on a toujours allé chercher ailleurs, toujours dans des lectures, et par surprise, parfois au détour d'une page, on retombe sur des considérations spatiales, ce qui fait que la synthèse n'est pas forcément très facile. Oui, je vais trop vite. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Alors, on va passer à la suivante. Merci. Et là, je me suis livré à un deuxième exercice, un peu infantile, c'est vrai, mais tout de même. Et c'est pour montrer la richesse, en fait, des concepts de la spatiologie. Oui, personne n'a employé ce mot, je crois pas, enfin, sauf erreur de ma part, mais Lefebvre appelait à la création d'une science qui n'existait pas, qui n'existe toujours pas d'ailleurs, et qu'il avait appelée la spatiologie, qui était une science de synthèse dans laquelle toutes les sciences sociales se préoccupant de géographie pourraient se retrouver. Alors pour faire ce petit exercice, c'est très simple, j'ai pris deux ouvrages anglo-saxons, qui présente l'avantage de toujours, souvent, de très souvent présenter, enfin offrir à la fin un index. Et tout simplement, j'ai retenu tous les mots les plus importants du corpus spatial qui figuraient à l'intérieur des index. Alors les deux ouvrages que j'ai pris, le premier c'est Henri Lefebvre sur l'espace, et le deuxième, un petit ouvrage excellent, donc sur les politiques spatiales, enfin la politique spatiale de la vie quotidienne et le droit à la ville. Bon. Et très rapidement, deux ouvrages suffisent, on arrive à ce résultat. Alors là, c'est un peu en vrac, hein, évidemment, mais ça, c'était simplement pour visualiser la richesse des concepts. Et ce n'est pas facile de... En fait, on pourrait le dire comme ça, Lefebvre nous donne la boîte à outils, mais il ne donne pas vraiment le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'après, on ne fait pas son marché chez Lefebvre, hein, mais quelque part, il faut effectivement les concepts, il faut les retravailler sur des sujets plus concrets. Oh, merci. Alors, j'ai voulu insister sur le fait que Lefebvre s'est toujours présenté, revendiqué comme un périphérique. Et donc, j'ai mis ici une carte que j'ai trouvée dans un ouvrage anglo-saxon aussi, de Rothschild. La référence est citée en bas. Et j'ai mis à côté un certain nombre de textes, enfin quelques citations brèves, qu'on trouve dans Le Temps des Méprises. Et je pense qu'elles méritent attention. Il dit notamment, il soulignait qu'il était toujours resté lui-même un périphérique dans tous les domaines. Ce qui m'a évité l'érosion, le nivellement qu'opère autour d'eux, dans la mesure du possible, les centres. Et pour moi qui suis un périphérique nantais, le poids de la centralité, les effets de centralité sont très puissants, y compris à différentes échelles qu'il faut décrypter. Lorsqu'ils sont immergés dans la centralité, celle de la pensée ou de la décision, les gens en perdent conscience. C'est-à-dire que... je prendrai un exemple très concret. Le Nantes Métropole, par exemple, dans mon département, c'est vraiment le lieu... C'est carrément... D'ailleurs, Lefebvre emploie le mot. C'est une technostructure d'une puissance importante. On aura l'occasion d'en dire un petit mot plus tard, quoi. Et les effets de centralité de Nantes Métropole s'exerce dans tout le département, mais même au-delà du département. Et donc les effets de centralité sont de diverses natures, mais peut-être on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. À l'inverse, alors il ajoute cette dernière phrase, à l'inverse, c'est bien une conscience périphérique menée méthodiquement qui permet d'atteindre la connaissance de la centralité et même de la mondialité. Paradoxe. Voilà, les périphériques sont mieux placés, et c'est ce qu'affirme Lefebvre. D'ailleurs, il l'a toujours revendiqué, et son lieu de périphérie privilégié, c'est les Pyrénées. Voilà, Navarinx, enfin bon, Campan, la vallée de Campan. Voilà. On avance pour pas. Alors, voilà le plan à nouveau. Je vais commencer par dire quelques mots sur le mouvement des sans-terres brésiliens. Donc juste, c'était juste pour vous visualiser le plan. Donc, et voilà. Alors il se trouve que vous avez une photographie ici qui propose assez bien une vision de ce qu'est le mouvement des sans-terres brésiliens. Alors c'est une chose que j'ai eu à étudier, mais j'y reviendrai tout à l'heure, pour ma thèse, quand j'ai fait cette thèse entre 1994 et 1998, où très rapidement, au Brésil, j'ai découvert un certain nombre de choses. La première, c'était celle-ci, c'est que Lefebvre était très connu et abondamment cité dans des ouvrages de géographie. ce qu'on ne trouvait absolument pas à l'époque dans les ouvrages de géographie français. Il y avait, alors, est-ce une censure? Est-ce une ignorance? Est-ce... Bon, voilà, je crois que... Mais le constat est là. Et la deuxième remarque, la deuxième découverte que j'ai faite à cette occasion, parce que quand j'ai commencé mon travail de thèse, sous la direction de Guy Dimeo. Alors, Guy Dimeo, pour les géographes, ça leur parlera peut-être. C'est un géographe très connu, et qui a cette particularité qu'il a publié, alors je crois que c'est en 1990, un ouvrage qui s'appelait « L'homme, l'espace, la société ». Et il consacrait un gros chapitre à Lefebvre. Et c'est ce qui m'a convaincu d'aller le solliciter pour être... J'ai laissé de côté les brésilianistes et j'ai préféré m'adresser à Dimeo, qui a accepté gentiment, et sachant que j'étais... Il l'a dit au moment de la soutenance, j'étais un thésard très tardif. Voilà, mais vraiment, c'est une façon de faire l'éloge de la lenteur aussi. Et il m'a dit... Oh ben, à la soutenance, il dit, je ne suis pas sûr que... Quand je vous ai vu, quand on a discuté, c'était très bien, mais franchement, je n'avais pas la certitude que l'affaire serait menée jusqu'à son terme. Bon, ça s'est fait quand même. Voilà. Alors, à l'époque, j'enseignais toujours en lycée. Je n'ai jamais eu de quoi que ce soit pour m'aider dans ce sens, donc c'était quelque chose d'assez lourd. Passons. Alors, quelques éléments supplémentaires à propos du mouvement des sans-terres. Alors à cette occasion, j'ai eu l'occasion de travailler avec un géographe brésilien qui en a fait sa spécialité, sa propre thèse. Alors vous voyez son ouvrage qui est en haut là, Bernardo Manzano Fernandes, qui est un géographe ruraliste très important. Et vous le voyez, le titre de l'ouvrage qui est issu de sa thèse, c'est le MST. Donc, alors j'ai du mal à lire. Formation et territorialisation. Voilà. Et ça, c'est le terme clé. Alors on a discuté. Je l'ai rencontré, on a discuté, on a échangé, et puis on a travaillé par des échanges personnels, mais par des articles aussi, à la définition, je ne fais pas trop vite, ça va, et à la définition d'un concept qu'on a appelé le concept de mouvement socio-territorial. Ce concept en France... n'a eu aucun écho, en particulier du côté des brésilianistes, ça a été complètement laissé de côté. Par contre, on va le voir, alors, pour autant j'avais quand même publié un ouvrage sur les sans-terres du Brésil, mais pour essayer d'expliquer cette affaire, qui est un peu compliquée, on va passer à la diapositive suivante, merci. Voilà, ça c'est une carte... qui va permettre peut-être d'expliquer davantage les choses. Ce concept de mouvements socio-territoriaux ou socio-territoriaux a été largement repris et développé, enfin par Bernardo Manzano Fernandes lui-même et par ses étudiants. Hein, et cette carte, qui est relativement récente, explique, ou plutôt... la répartition des occupations à campamentos, hein, les camps d'occupation des différents mouvements sociaux territoriaux et en particulier des sans-terres du Brésil, du MST. Et il faut le dire au passage, ces occupations, c'est la méthode employée par des communautés, parce qu'ils emploient le mot, eux, de paysans qui envahissent des fazendas, enfin des latifondios plus exactement, hein, surtout quand ils sont improductifs. Mais le phénomène se déroule toujours dans les régions très souvent très périphériques. Ce que je voulais évoquer, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la distinction qu'on a été amené à faire. Initialement, je m'interrogeais sur la question de la géographicité. Alors, concept un peu particulier, ancien, français, d'origine. C'est, au fond, la géographicité, c'est Oui, ça, je vais accélérer. C'est la manière d'être dans l'espace. Voilà. Et petit à petit, dans la discussion, on est passé du concept de mouvement socio-spatiaux. La discussion a été plus ou moins ébauchée hier, mais cette discussion, on l'a eue à l'époque, et finalement, on est passé plutôt à cette définition. Mais peut-être que dans la discussion, on aura le temps d'évoquer éventuellement, s'il y a des questions, ce problème. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est que ce concept de mouvements socio-territoriaux, il a été repris et diffusé depuis largement, puisqu'on arrive dans la liste qui est établie par cette étudiante et cette carte aussi, une centaine, hein, voilà, de mouvements socio-territoriaux différents au Brésil. Alors, je n'ai pas le temps, malheureusement, d'expliquer le détail, mais le plus important de tous ces mouvements socio-territoriaux, c'est le mouvement des sans-terres du Brésil. Par contre, c'est juste une remarque sur la commission pastorale de la terre, qui également soutient des occupations. Et la commission pastorale de la terre, c'est ce qui a été à l'origine, en gros, de la mise en œuvre dans les régions rurales de la théologie de la libération. Je passe. Désolé d'être aussi rapide. Alors, j'en viens au périurbain. Alors, le périurbain, c'est... Ici, par exemple, simplement pour le cartographier, dans un premier temps, c'est au fond ce qu'il y a autour. Alors vous voyez la métropole nantaise qui apparaît en gris. Et le périurbain, c'est au fond la dispersion des constructions, enfin on le voit ici avec ce critère, des constructions autour de l'agglomération. Alors vous reconnaissez, je ne sais pas si vous connaissez bien la région de Nantes, mais bon, le département de Loire-Atlantique, mais vous reconnaissez l'estuaire de la Loire avec Saint-Nazaire, et au centre, donc, la métropole nantaise. Et on le voit dans la période qui est indiquée ici, petit à petit, les ménages construisent leurs habitations ou quittent Nantes pour aller s'installer dans une zone périphérique de plus en plus étendue. Je passe. Et merci. Et on... il faut dire un mot rapide sur l'encadrement socio-administratif et politique des territoires autour des métropoles. Et là, au cœur, là, vous trouvez... Alors, Nantes et Saint-Nazaire font partie d'une bimétropole qui se sont élargies encore récemment dans le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Et vous voyez bien que tout ce qui apparaît en gris autour, c'est ce qu'on appelle des intercommunalités ou plus exactement des communautés de communes. Et ça, c'est une chose qu'il faut, à mon avis, prendre très en considération pour comprendre comment s'exerce la gouvernance dans ces territoires. Bon, c'est, j'y vis. Il se trouve que j'ai été élu aussi pendant un mandat, et que je l'ai vu de l'intérieur. J'ai vu de l'intérieur comment ça fonctionnait. Hein. Donc, par exemple, on peut dire que dans ces territoires qui sont gouvernés dans le cadre des intercommunalités, il y a une confiscation de la démocratie et de la politique qui s'aggrave au cours des 10 dernières années par l'intermédiaire de fusion. Autrement dit, je le répète, la gouvernance politique du périurbain nantais, mais c'est vrai ailleurs, s'exerce par l'intermédiaire des communautés de communes. Je passe. Encore, je suis vraiment désolé de passer aussi rapidement. Et là, deux cartes, simplement, qui permettent de sociologiques, d'une certaine manière, qui permettent de mesurer la différence qu'il y a. Alors, à gauche, c'est la part des plus de 15 ans des cadres et professions intellectuelles supérieures. Vous voyez ? Et là, il n'y a pas de doute. Alors, faites attention aux échelles qui ne sont pas les mêmes, hein, qui apparaissent en bas. Nantes et son pourtour, c'est là que la proportion de cadres supérieurs est la plus importante. Bon, sans qualification autre, il y a beaucoup de soucis dans la définition des CSP, catégories socio-professionnelles. Ce qui d'ailleurs pose un vrai problème aussi pour la définition lui-même du périurbain. En tout cas, ici, en gros, à gauche, alors là, je vais faire dans la caricature, à gauche, les bobos, à droite, les ouvriers. Non, non, mais ça ne choque pas, ça ne choque pas. Et alors, c'est là qu'on voit la différence, n'est-ce pas ? C'est que les bobos, allez, allons-y, se concentrent dans la centralité nantaise, alors que les ouvriers, parce qu'il s'agit bien là des ouvriers, n'est-ce pas, avec une échelle qui n'est pas du tout la même, si vous arrivez à la lire, vous verrez que c'est très différent, eh bien, sont peu à peu reculent, peu à peu plus loin, quoi, sont envoyés plus loin. C'est ce qui a été qualifié de... Le mot m'échappe pour l'instant. Voilà. J'aurais pu mettre une troisième carte, entre les deux, mais je n'avais pas la place. Et, c'est-à-dire les professions intermédiaires. Ben, ça aurait fait une auréole entre les deux, quoi. En plus, c'est tout. Donc on voit bien que l'espace est fragmenté et ségrégué. Merci. Alors, pour être raccord avec l'intervention de Lucia, j'ai tenu absolument à parler des poubelles. Mais ne croyez pas que j'ai eu à faire un effort extraordinaire, parce qu'il se trouve que c'est une question qui nous préoccupe beaucoup, enfin qui me préoccupe beaucoup dans mon propre territoire. Et au passage, on a créé un collectif dont le titre a été « Libérer nos poubelles ». C'est-à-dire, cela dit, bon, on a un peu de mal à mobiliser, tout de même, il faut bien le dire. Et simplement, ce que je voulais souligner, c'est encore un autre exemple de la gouvernance. Comment la gouvernance de cette question des poubelles... Alors évidemment, c'est dans un contexte complètement différent de celui qui a été évoqué tout à l'heure. Mais cela dit, il y a une vraie question. Et là, chez nous, si j'ose dire, au fond, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et c'est celle qui prévaut encore dans Nantes Métropole et dans un certain, également à la Carène, c'est-à-dire à Saint-Nazaire. Alors, si vous voulez, je vous explique le plus brièvement possible de quoi il s'agit. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est très simple. Vous mettez votre poubelle devant chez vous, la benne passe toutes les semaines, et vous payez tout ça sur la... Alors exactement, sur les taxes foncières. C'est bizarre, d'ailleurs, quand c'est le cas, quand c'est taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Généralement, ça passe assez inaperçu. Hein ? En fait, c'est un service public financé par l'impôt. Qui fonctionnait très bien. Mais là, dans la périphérie nantaise, on met en œuvre quelque chose qui s'appelle la redevance incitative. C'est-à-dire, au nom du tri sélectif, on instaure un système tout à fait différent où on exige des particuliers qu'ils fassent eux-mêmes le tri de leurs déchets, qu'ils remplissent leur poubelle uniquement avec les déchets ultimes, et qu'ensuite, eh bien, ils aillent porter dans des éco-points le résultat du tri sélectif qu'ils ont fait. Alors, c'est bien, OK. Sauf qu'au passage, on transforme un impôt qui est un impôt, enfin, un service public qui est un impôt qui est payé par l'impôt, en service individualisé qui est payé par une redevance. Alors, il y a des peines, les poubelles sont poussées. C'est très technologique. Hein. On compte le nombre de levées, etc. Et finalement, on facture après aux particuliers. Moi-même, je suis facturé selon le nombre de fois que je mets la poubelle devant chez moi. Alors, en fait, moi, quand j'écoutais l'exposé tout à l'heure, c'est une autre manière de procéder pour valoriser les déchets. Autrement dit, on nous fait faire le boulot et on finance tout ça par une redevance d'ailleurs qui, au passage, soulignons-le, a fortement augmenté par rapport à la taxe d'enlèvement. Pour moi, par exemple, c'est un exemple, ma redevance incitative, elle a augmenté de 60% par rapport à la taxe que je payais avant. Donc voilà, je ne vais pas insister trop sur ce sujet, mais on a tort de mépriser les poubelles. Hein, et moi, j'essaye de m'inscrire dans cet aspect de la critique de la vie quotidienne qui va se loger jusque dans ces aspects qu'on pourrait considérer comme triviaux, mais qui... voilà. Bon, alors, on va passer. Et j'en viens à la ZAD. Alors, bon, sujet qui fâche. Pendant 10 ans, le meilleur moyen de se fâcher avec quelqu'un, c'était de dire que vous étiez pour l'aéroport. Alors là, tranquille, c'était réglé tout de suite. Et puis maintenant, la question reste d'une autre façon par rapport à la ZAD. Oh là, 5 minutes pour la ZAD, ça va être difficile. Avançons. Je laisse tomber ça. Oui, un petit rappel pour ceux qui ne sont pas de la région. C'est le rappel historique dont vous en prenez connaissance pendant que je vous fais un court commentaire. En fait, c'est une affaire qui remonte à très très loin, 1965. Et à l'origine, alors vous voyez, vous situez Notre-Dame-des-Landes et le figuré noir qui est au milieu, c'est l'implantation. J'avais fait le calcul il y a quelques années. Ce petit point noir représente quelque chose comme 0,05% de la superficie du département. Ça ramène les choses à leur juste proportion. Mais pendant très longtemps, ce projet, qui était porté beaucoup par la Nantes Métropole et surtout par son ancien maire Jean-Marc Ayrault, est resté un peu sous le coude, quoi. Et puis c'est seulement à partir des années donc de 2010, 2009, voilà, que les choses se sont un peu envenimées avec la relance du projet en question. Alors je vais vous signale au passage le 26 juin 2016, consultation locale des électeurs. Je vais y revenir un petit peu. Bon, on va le faire tout de suite, d'ailleurs, comme ça gagnera un petit peu de temps. On passe au suivant. Merci. Voilà, donc j'ai voulu... Alors, la question est obsolète, puisque même si 55% des électeurs du département qui sont allés voter ont voté pour le transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique au sud de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, cette question ne se pose plus. Mais je crois que le résultat de cette consultation mérite attention tout de même. Alors je regrette un peu que Jean Rivière, qui était là hier, ne soit pas resté, parce qu'il a publié un article sur cette consultation. Je partage les cas, encore qu'il y a quelques petits soucis à propos des cartes, mais je ne partage pas vraiment les conclusions. Hein, parce qu'au fond, il s'appuie sur les résultats à Nantes pour aboutir à cette conclusion de dire, c'est pas compliqué, les gens de droite, voilà, exactement, c'est la formule qu'il emploie. Dans Nantes Métropole, les quartiers qui sont de droite ont voté pour. Et les quartiers qui sont de gauche ont voté contre. Or, je conteste ça. Parce que si ça peut être vrai dans Nantes, ça ne l'est absolument pas dans l'ensemble du département. J'en veux pour preuve une chose très simple, c'est que mon ancien maire, puisque j'étais son adjoint, qui était plutôt de tendance Europe Écologie Les Verts, eh bien, dans la commune en question, les gens ont voté à peu, mais en majorité, pour le transfert. De même dans la commune voisine, quoi. Oui. Alors en fait, bon, il faudrait décrypter cette carte qui est un peu plus compliquée. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. J'avance. Tant pis, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de quelques commentaires. Alors là, je vous ai mis le paquet. C'est des titres de presse de Presse Océan et de Ouest France depuis l'abandon. Et si vous arrivez à lire le détail, vous verrez... Alors il y aurait beaucoup à dire sur la presse locale, Presse Océan, Ouest France... vous connaissez Ouest-France, mais moins Presse Océan, qui est plus départemental. Mais bon, en gros, quoi, voilà. Les titres, mais les articles sont à l'avenant, quoi, je veux dire, ils vont dans le même sens, hein, montrent que finalement, ce qui est en train de se passer, ça le démontre d'une certaine manière, c'est une forme de on rentre dans la norme. Il y a une sorte de... Alors, pour moi, je l'interpréterais comme ça, je le dis un peu brut de décoffrage, ça nécessiterait peut-être quelques nuances. Au fond, l'abandon de l'aéroport a été le succès de l'espace perçu contre l'espace conçu. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu... c'est net, hein, y a pas de doute, quoi, qui n'était pas forcément majoritaire, hein, mais qui l'a emporté quand même. Après, Macron a dit qu'il le ferait, mais il ne le fait pas, comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, qu'il avait dit dans sa campagne. Mais, par contre, à mon avis, ce qu'on a laissé trop de côté, c'est l'espace perçu. Alors moi, je le conçois comme un peu ça, c'est-à-dire l'idéologie, les idées qu'on propage à propos de certains sujets, les utopies qui viennent se greffer là-dessus. Et ce qu'on a du coup laissé complètement de côté, c'est l'espace réel vécu des périurbains, qui, eux, ne pensaient pas forcément que le transfert était un drame. Voilà. Bon, désolé d'être si bref. J'espère que ça suscitera quelques questions. Alors, je passe là-dessus. Ça, c'est simplement une visualisation très vite fait de l'espace conçu. C'est la carte du plan d'aménagement et de développement durable de l'intercommunalité, de la communauté de communes de Erdre et Gèvres. C'est vraiment... Moi, j'ai eu ça sous les yeux quand j'étais adjoint. D'ailleurs, je connais le bureau d'études qui a fait ça, Citanova. C'est de l'euphémisation de l'espace. Hein, si vous voyez, d'ailleurs, ils étaient bien avisés de le faire comme ça, parce que l'aéroport, on le voit juste à peine, il est à peine suggéré. Et puis tout le reste, c'est comme si il n'était pas prévu ou envisagé de le mettre, quoi. En ce moment, d'ailleurs, ils sont en train de réviser leur plan d'occupation des sols. Voilà. Dernière chose, alors j'aurais aimé la commenter bien plus en détail. Cette carte a été faite par un collectif de géographes autour de Frédéric Barbe, qui a publié ça. Alors c'est un groupe, il s'appelle Cartos, je crois, voilà, c'est ça. Et très intéressante, mais il faudrait vraiment la décrypter dans le détail. Mais tout ce qui apparaît, la ZAD à proprement parler, c'est-à-dire le territoire d'expérimentation qui a été évoqué tout à l'heure à travers une question, se concentre tout spécialement dans les parties qui apparaissent en rouge. Alors que tout le reste, depuis janvier, et notamment depuis quelques semaines, va faire l'objet d'une régularisation foncière. C'est-à-dire que les agriculteurs, par exemple, et tout à l'heure, si vous avez pu, vous avez compris dans les titres de la presse que c'est les agriculteurs qui ont emporté le morceau. Je veux dire, avec la Chambre d'agriculture et même la Confédération paysanne, hein, qui finalement a dit, alors la Confédération paysanne qui appartient à Via Campesina. Auquel appartient également d'ailleurs le mouvement des Sans-Terre. Ils ont avalé la couleuvre d'une certaine manière et ils ont pris position pour la régularisation, pour encourager à la régularisation foncière dans le territoire de la ZAD. Quoi, voilà. Je dois conclure. Alors bon, tout ça évidemment est très disparate, mais c'est quand même, il y a une ligne directrice. Quelle que soit l'échelle, quel que soit le territoire, surtout s'il est périphérique. Alors j'ai mis ici la bibliographie qui est riche sur le sujet, sur différents sujets. Eh bien, au fond, on peut aller chercher chez Lefebvre, non pas des solutions toutes faites, ça, c'est impossible, mais d'aller puiser dans son corpus conceptuel des éléments d'analyse qui nous permettent de mieux comprendre le réel. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose de très important parce que ça pose aussi la question comment militer ? Comment militer ? Quels objectifs se fixer ? Les poubelles ? Oui, pourquoi pas ? Oui. Mais c'est compliqué quand même, hein, parce que notre collectif, il est très, très réduit. Mais bon, voilà, passons. J'en reste à cette idée quand même que, effectivement, c'est un point d'appui, une grille de lecture qui peut permettre de trouver des perspectives nouvelles. Parce que, franchement, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin.